Chapitre 7e. On était dans un moment où des craintes de disette commençaient à se répandre dans les campagnes. Le prix des denrées de première nécessité augmentait rapidement. Les marchés étaient mal approvisionnés et les grains surtout devenaient de plus en plus rares. Les fermiers ne portaient plus de blé au moulin et achetaient leur pain chez les boulangers, dont les réserves disparaissaient avec une vitesse effrayante. Des troubles avaient agité quelques villages. Dans d'autres localités, des paysans et des ouvriers armés de fourches, de pioches, de bâtons, de fléaux, avaient assailli des magasins de comestibles et mis tout au pillage. Le mal était grand, la terreur l'augmentait. Les jours de marché, une foule considérable remplissait les places publiques où s'établissait le cours des denrées. Des attroupements nés du hasard, grossis par la curiosité, exploités bientôt par la malveillance de quelques-uns, faisaient entendre des clameurs menaçantes. Les plus turbulents voulaient contraindre les marchands à vendre au-dessous du cours. Un mot faisait naître une querelle. La querelle dégénérait bientôt en rixes, on en venait au coup, et dans la bagarre, les sacs de froment renversés et foulés aux pieds perdaient la moitié de leur richesse. Quand la gendarmerie accourait pour rétablir l'ordre, on l'accueillait à coups de pierre. Des femmes, des enfants se jetaient au-devant des soldats, les accablaient d'injures, les couvraient de huées, et ce n'était plus que tumulte et confusion. Au milieu de cette agitation populaire qui s'étendait dans le pays comme s'étend sur un lac le remous occasionné par la chute d'une pierre, des hommes à figure sinistre, de ces hommes qui surgissent dans les temps de commotion et de guerre civile, parcouraient les communes, aigrissant les esprits, enflammés déjà par les récits les plus absurdes. Des cris de mort se mêlaient aux menaces dont les propriétaires étaient l'objet. Déjà on avait attaqué des charrettes sur la route, dévasté des moulins, mis le feu à des granges. Des cris de mort se mêlaient aux menaces dont les propriétaires étaient l'objet. Déjà on avait attaqué des charrettes sur la route, dévasté des moulins, mis le feu à des granges. Le mot de famine revenait sans cesse dans les entretiens de la veillée et troublait les esprits les plus impassibles. Mais ce n'était pas ceux qui souffraient davantage qui se plaignaient le plus haut. Quand la société s'agite dans son lit, les mauvaises passions s'exhalent de tous les côtés à la fois, comme ces vapeurs qui sortent du sol crevassé pendant les tremblements de terre. C'était l'heure propice aux basses vengeances, aux rancunes sourdes, aux secrets d'inimitié. L'émeute avait ses meneurs et, tandis qu'elle brisait les portes des boulangeries en réclamant du pain, les plus enragés des émeutiers, ivres d'eau-de-vie, jetaient les sacs de farine à la rivière. Parmi ceux qui soufflaient le plus activement le feu de la révolte, il y avait de petits propriétaires jaloux d'épouvanter les grands, des boutiquiers de village et des artisans à qui rien ne manquait, si ce n'est le luxe. Leurs espérances n'allaient pas jusqu'au partage des biens, mais elles allaient certainement jusqu'à la possibilité d'acheter à vil prix quelques arpents de bonne terre détachés d'un grand domaine. Les scènes de violence devenaient plus fréquentes de jour en jour. Elles se multipliaient autour de Rocheblanche comme ces vagues qui montent avec la marée. Depuis que Jean était retourné dans les bois, il vivait à l'écart, tuant ce qu'il fallait de gibier pour vivre, mais évitant de se mêler jamais aux réunions dont les cabarets du village étaient le centre. Sa réputation de force, de courage et d'adresse n'en était pas moins bien établie pour cela, on le sait. Un soir, au coucher du soleil, comme il passait dans une clairière, un groupe d'hommes vint à lui. Loup, comme c'était son habitude, se jeta devant son maître, la tête haute et montrant ses crocs. « Appelle ton chien si tu veux qu'on te parle !» lui cria un de ses hommes, qui était charron de son état et braconnier dans l'occasion. Jean siffla Loup, qui vint se coucher à ses pieds. Les hommes s'approchèrent. Ils étaient tous d'assez mauvaise mine, mais Jean n'avait peur de rien. « Le lieu n'est pas sûr ici, » dit le charron. « Il y a des cabanes de charbonniers. Allons auprès aux nains. »« Tu as donc à me parler ?» dit Jean. « Bien toujours, tu le sauras. » Jean jeta son fusil sous son bras et suivit le charron. Quand ils furent sur le pré au milieu duquel saillaient les pierres des nains rougies par les rayons du soleil couchant, ils s'arrêtèrent. « Voyons, j'écoute, » dit Jean. « Les gens de Rocheblanche se sont mal comportés envers toi, » reprit le charron qui semblait être l'orateur et le chef de la bande. « Ils t'ont fait tout le mal qu'ils ont pu. » Qui te l'a dit ? « On le sait. » « De leur part, ça ne nous étonne pas. Si tu veux venir avec nous, nous t'offrons de te venger. » Jean regarda son interlocuteur de la tête aux pieds. « Ah ça ! Que complotez-vous donc, mes maîtres ?»« Oh, c'est fort simple, » continua le charron. « Monsieur de Gaillefontaine, un sournois qui a des tonnes d'or dans ses caves. Lui, il mange la moitié de ce qu'il a et il donne le reste. Laisse donc. Est-ce que tu es assez simple pour croire cela? Il donne les gros sous et il garde les louis, n'est-ce pas, vous autres ?»«
Oui, oui !»
crièrent les amis du charron. « Avec ses louis, reprit celui-ci, il achète tout le blé qu'il peut trouver et il affame le pays. Il en a chez lui des monceaux. Toutes les granges de roches blanches en sont pleines. Vous les avez vues? Est-ce qu'on a besoin de voir ces choses-là? Ça se devine assez. Que veux-tu qu'il ait fait de son argent, ce Richard-là? »
« Parbleu, interrompit un des auditeurs.
« Il s'en est servi pour faire hausser le blé de 5 francs par hectolitre au dernier marché d'Amboise. C'est une désolation dans la campagne. Si ça dure, nos femmes et nos enfants n'auront plus de pain. »
Celui qui parlait ainsi était un grand garçon, frais et gras à plaisir. Une forte odeur de vin indiquait assez qu'il était arrivé tout droit du cabaret au pré aux nains.
« Il faut que ceux qui ont trop donnent à ceux qui n'ont pas assez, » continua le charron. « Est-ce juste ?»«
C'est juste, »
répondit la troupe.
« Tu connais le château, tu viendras avec nous, à notre tête, » poursuivit le charron.
« C'est donc moi que vous voulez pour chef ?» répondit Jean.
« Tu as appris à parler, tu leur demanderas ce qu'il nous faut. »
« Quoi d'abord ?»«
Du pain. » »«
Rien que cela. » »«
Et de l'argent ensuite. » »«
Pour les nôtres qui sont nus. » »«
Et si les maîtres de Roche-Blanche refusent l'argent et le pain ?»«
On leur prendra tout s'ils ne donnent rien. »
Il y eut un moment de silence durant lequel Jean sembla se consulter.
« Voyons, » dit enfin le braconnier d'une voix ferme, « il faut jouer franc jeu. Irons-nous seuls au château de Roche-Blanche ?
Nous irons 1000. Ce ne sont pas les pauvres qui manquent. »
« Alors c'est un assaut. »
« Ce sera ce que le hasard voudra. Sais-je, moi, ce qui arrivera ?»«
Tu le sais fort bien. D'abord des cris, puis des coups, et le pillage après. C'est un guet-apens. »
Il y eut un mouvement dans l'auditoire. Parmi les compagnons du charron, 2 ou 3 se mirent à murmurer.
« Silence, vous autres !» s'écria Jean. « Je vous ai écouté. Écoutez-moi à mon tour. »«
Mais tu n'es donc pas avec nous, toi ?» interrompit le charron.
« Je ne suis avec personne, pas plus avec eux qu'avec vous.
Tu étais aux écoles, Jean. » « Tu as la langue affilée, mais tu ne marches plus avec les tiens. »«
Oui, » cria l'un des amis du charron en faisant 2 pas en avant. « C'est un Judas, il nous vendra tous. »
Jean étendit la main et la posa sur l'épaule de son interlocuteur.
« Si j'ai la langue affilée, j'ai la main rude. Souviens-t'en, » dit-il.
L'homme qui s'était avancé recula 2-3 pas en trébuchant. Son visage se crispa douloureusement et il porta la main à son épaule.
« Oh ! » s'écria-t-il, « ne pourriez-vous serrer moins fort ?»«
Parlez moins haut, je serrerai moins fort, » répondit froidement le braconnier. Le charron fronça le sourcil. « Voyons, explique-toi. Nous savons tous que tu es fort comme un bœuf, mais il y en a qui te valent, » dit-il.
« Alors c'est à cela que je parlerai, » reprit Jean qui s'adressa au charron. « Tu es un homme et tu as des bras, travaille, » ajouta-t-il. « Si des femmes, des enfants, des vieillards avaient faim, je les accompagnerais. Et le premier, je demanderais pour ces pauvres créatures. Mais vous, des hommes robustes comme vous l'êtes, mendiez. »«
Qui parle de mendier ?»
s'écria le charron. « Nous voulons de leur superflu, et nous le prendrons. »«
C'est-à-dire que vous volerez. »«
Ah, mes braves, il y a la cour d'assises et les galères après cela. Et vous voulez que je me mêle de vos affaires ?»«
C'est bien, ne t'en mêle pas, on les fera soi-même. » Du moment que tu aimes ceux qui te maltraitent et que tu rudoies ceux qui t'aiment, n'en parlons plus.
J'ai vu les granges de M. de Gaillefontaine, elles sont aux 3/4 bides, dit-il.
Qu'il nous donne ce qu'il y a dedans et on ne lui ôtera pas un cheveu de la tête.
Mais on lui ôtera la tête de dessus les épaules, s'il refuse.
Personne ne répondit.
Et vous dites que vous êtes des ouvriers, vous, reprit Jean, vous êtes des bandits.
Les camarades du charron se regardèrent, mais pas un ne bougea.
« Voilà bien du bruit pour quelques mauvais pains que nous voulons demander aux gens du château, » reprit le charron. « Mais toi, qui parles si haut, que fais-tu quand tu tues un chevreuil du roi ?
Ce qui t'arrive assez souvent. »«
Quand je tue un chevreuil, j'ai tort. »«
Eh bien, nous aurons tort. Partant, quitte. »
Les amis du charron se mirent à rire. « Il prend le gibier, » dit l'un. « Nous prendrons le pain, chacun son goût. »
Ce fut un éclat de rire dans toute la troupe.
« Suffit !» reprit le charron. « Tu ne veux pas de ce qu'on te propose, c'est ton droit. Chacun a le sien. Seulement, tu vas nous jurer de ne rien dire de ce que nous t'avons confié. »«
Oui, oui, qu'il jure !»
s'écrient les autres.
« Et si je ne jurais pas ?» dit Jean. Les interlocuteurs se regardèrent en hésitant. «
Alors, » dit le plus hardi, nous t'y forcerons.
Écoutez, mes braves, reprit Jean, vous êtes cinq, mais j'ai deux mains qui en valent dix. Tenez-vous tranquille, je vous le conseille.
Voyons, qu'a-t-il ?
S'écria le charron qui jouait le rôle de négociateur. Faut-il se battre parce qu'on n'est pas du même avis ?
Jean ne fera rien contre des amis et chacun ira de son côté. Après tout, le sol est lui pour tout le monde.
On se sépare là-dessus sans ajouter un seul mot.
Pendant cette conversation, la nuit était venue. Jean écouta pendant quelques minutes le bruit des pas du charron et de ses camarades qui se perdaient dans l'éloignement. Après quoi, il se dirigea vers la hutte d'un bûcheron où souvent il passait la nuit. Il lui semblait que cette visite qu'on lui avait faite dans le pré-aunin était comme une apparition d'être malfaisant. « Ils ont l'instinct du mal, se dit-il, mais ils n'en ont pas l'audace. Les chiens qui aboient ne mordent pas. » Il était engagé dans la forêt depuis un quart d'heure à peu près lorsque Loup s'arrêta court, flaira l'air un instant et partit en aboyant.
« Ici, Loup !»
cria le braconnier. À peine avait-il parlé qu'un éclair illumina un pan de la forêt, suivi bientôt d'une détonation. La balle coupa une branche de chêne et vint s'aplatir contre la crosse du fusil que Jean tenait à la hauteur de l'épaule. À la clarté de l'éclair, le braconnier vit le corps d'un homme caché dans l'épaisseur du taillis.
« Ah !» se dit Jean en regardant la balle qui s'était incrustée dans la crosse. « C'est la carte de visite du charron. »
Le charron s'élança hors de sa cachette et prit sa course au travers de la forêt. Un instant, le fusil du braconnier s'abaissa vers le fugitif. Il le vit par une échappée du bois et sa joue s'inclina vers la crosse, puis, relevant son arme,
« Non, » murmura-t-il, « il ne sera pas dit que j'aurais tiré sur un homme comme sur une bête fauve. »
Mais changeant soudain de direction, il marcha du côté de Rocheblanche. Jean fut reçu par M. de Puiseux. M. de Gaillefontaine, indisposé, gardait la chambre en compagnie de sa fille.
« Vous m'avez fait demander, M. Guillard, » dit le gentilhomme en entrant dans la salle où Jean l'attendait. « Qu'y a-t-il pour votre service ?»«
Pour moi, rien, » dit fièrement le braconnier.
« C'est donc pour moi que vous venez ?»«
Pour vous, pour M. de Gaillefontaine, pour Mme Berthe, pour tout le monde, enfin. »
Jean était naturellement fier, mais d'une fierté douce qui n'avait rien de blessant. Auprès de M. de Puiseux, cette fierté devenait de la roideur. De son côté, le mari de Berthe avait, on le sait, l'humeur encline à la hauteur, et un levain de jalousie fermentait continuellement dans son cœur. Ces deux hommes ne se rencontraient pas, ils se heurtaient.
« Ainsi, c'est un service que nous allons encore vous devoir ?»
reprit M. de Puiseux, dont les paroles devenaient amères, malgré les efforts qu'il faisait pour maîtriser son impatience.
« Je ne sais pas si c'est un service, c'est un avertissement. »«
Ah !» fit le châtelain en fronçant le sourcil.
« Des hommes mal intentionnés se présenteront demain à Rocheblanche. Ils seront peut-être en grand nombre, peut-être armés. Quand une masse de peuple est poussée par la colère, un malheur est vite arrivé. Vous êtes avertis, usez de précautions. »«
Merci, » répondit M. de Puiseux en s'inclinant légèrement.
« Vous me paraissez bien instruit des projets de ces drôles. »
Mais permettez-moi de ne pas croire à la gravité du danger. Les têtes s'échauffent au cabaret, on parle beaucoup, et puis l'exaltation tombe avec l'ivresse.
Le braconnier se mordit les lèvres jusqu'au sang.
« Tenez, » ajouta M. de Puiseux, « ne faisons pas à ces messieurs l'honneur de les croire plus hardis qu'ils ne sont. S'ils viennent demain, eh bien on donnera du pain à ceux qui auront trop bu. Quant aux impertinents, ils sont reçus de manière à leur faire passer l'envie de revenir. »
« Vous êtes le maître chez vous, monsieur. Faites donc comme il vous plaira. »«
C'est bien ainsi que je l'entends. »«
Cependant, et au nom de l'intérêt que je porte à M. de Gaillefontaine, qui a toujours été bon pour mon père, laissez-moi vous rappeler qu'il y a dans ce château une femme et des enfants. »«
Il n'est pas besoin qu'on me le rappelle, monsieur. »
se hâta de répondre M. de Puiseux d'un air hautain. Jean salua M. de Puiseux, tourna les talons brusquement et sortit de l'appartement. Quand il fut sur le seuil du château, Jean secoua la poussière de ses pieds comme l'homme de la parabole évangélique et précipitant sa marche.
« J'ai fait mon devoir, » dit-il, « maintenant, advienne que pourra. »